tous et bienvenue dans ce live 149 de Golasso. Aujourd'hui, toujours avec nos superbes consultants, on va traiter plusieurs sujets qui sont bien différents les uns des autres. Et tout de suite, on va les présenter comme d'habitude. Alex, le big boss, comment tu vas, Alex?
T'as eu un doute là, ça va, bah, tranquillement, on est heureux de faire cette émission tous ensemble pour un beau petit programme, un mardi soir, tranquille en début de semaine, après un jour férié, donc on ne peut être que heureux.
Mais bon, les jours fériés, ils comptent pas pour toi. Et puis, j'avais un doute si t'étais le boss encore à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça. Ensuite, notre Black Alliance préféré, Mathieu, comment tu vas?
Bonsoir Louis, bonsoir Alex, bonsoir à tous nos éditeurs. Très content de te revoir surtout. Il y a quelques semaines,
Oui,
donc
c'est vrai.
très
Merci,
très
ça fait
très
plaisir.
heureux. Et bah, oui, très très bonne émission, on l'espère, comme d'habitude, avec des débats qui risquent d'être au vitriol pour certains, je pense.
En effet, qui risque d'être très sympathique. Et pour
Pourquoi? Au
terminer.
vitriol?
Oui.
Attends, là, vas-y,
Bah,
vas-y,
va
vas-y.
chercher sur Internet, tu verras.
Attends, je vais chercher tout de suite.
Vas-y. Sinon, on accueille l'autre.
On ne retient
Le
pas ses
stressé de la
recherches,
bande.
Alex. En tant que tu fasses les recherches, on va présenter le dernier consultant de ce soir, c'est Phil. Comment vas-tu, Phil?
Bonsoir à tous. Ravi de pouvoir repartager encore une fois un live avec toi, Louis. Ça faisait si longtemps.
Là là.
J'aime beaucoup la teneur du titre. C'est très drôle. C'est très drôle. Et je pense qu'on va, ouais, ça va faire partie des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais.
Vitriol, j'ai toujours pas trouvé. Hein. Mordant, tricot.
Non,
Le vitriol est
mais
un composé disulfaté à base d'anion sulfate. Ouah!
oui, c'est ce qui risque de se
Ça se
passer.
trouve, il n'existe même pas le mot. Il voulait dire Vitinia.
Il existe le mot.
Alors,
Non, mais oh.
monsieur, trêve de plaisanterie, on va attaquer les sujets. Et le
Qui
premier sujet
fâche?
de ce soir, c'est Porto. On va parler de Porto. Et Porto, qui, malgré une saison quand même en dents de scie et des performances qui laissent à désirer, s'accroche et est toujours dans la course au titre et n'est qu'à 4 petits points du leader Benfica. Le titre de ce sujet, ça va être est-ce que le Football Club de Porto serait un mauvais champion s'ils viennent à être champions, justement? Et j'ai envie de lancer Alex en premier sur cette question.
Mauvais champion, je pense pas qu'il y a de mauvais champion. Je pense que quand tu termines champion, quand tu es comme ça sur la lutte pendant 34 journées, pendant 9 mois, c'est que tu ne peux pas être mauvais champion. C'est vrai que dans le jeu, le FC Porto nous a pas sublimé, nous a pas émerveillé, nous a pas passionné. Enfin, c'était très ennuyeux sur toute la saison, tout simplement. Mais je pense pas que ça fera un mauvais champion parce que, comme je viens de le dire, ils ont été réguliers. Le FC Porto, s'ils sont champions, c'est dire que bah, qu'ils n'ont rien lâché de A à Z. Ils ont fait ce qu'ils ont fait depuis maintenant des années avec concession, c'est d'y croire jusqu'au bout, de lutter pour chaque match, pour même quand il y avait 10 points d'écart, voilà, d'y croire jusqu'au bout. Et rien que pour ça, je ne pourrais pas parler de mauvais champion. Maintenant, si on parle de jeu, oui, ce ne sera pas un champion séduisant. Pour moi, pour la valorisation du championnat portugais, ça me ferait, je dirais, de la peine de voir le FC Porto champion, bien que je ne supporte aucun club, mais j'ai envie que la meilleure équipe gagne, le plus beau jeu sur l'ensemble de la saison gagne, et pour moi, Benfica mérite amplement son titre. Maintenant, si Benfica venait à perdre son titre après avoir eu 10 points d'avance, bah écoute, ça sera honteux et ça, ils pourront s'en prendre qu'à eux. Mais je pense que si Benfica venait à perdre leur titre, ce serait plus une faute professionnelle de la part de Benfica plutôt qu'une grosse performance de Porto. Voilà, Benfica avait une main sur le titre. S'ils le perdent, bah ça sera tout simplement de leur faute. Parce que c'était la meilleure équipe du Portugal. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus pour dire que sur l'ensemble de la saison, c'est la meilleure équipe du Portugal. Donc pour moi, ils méritent le titre. Mais voilà, si Porto va chercher ce titre-là, ça sera bravo à eux et ça montrera une force mentale de toute épreuve et surtout un trait de caractère que l'FC Porto a depuis l'arrivée de Conceição. Donc voilà, pour moi, ça sera pas un mauvais champion, mais c'est vrai que ça sera pas le plus beau des champions tout de même.
Je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Je vais parler vite fait de Porto. C'est vrai qu'on a l'habitude de Porto quand même, qu'un Porto accrocheur. Malgré tout, même si les mercatos sont mauvais durant l'été, même s'il y a plein de choses qui laissent à désirer autour de la direction, etc. De nombreux débats qu'on a eu en émission, c'est vrai qu'on sait toujours que bah, Porto, c'est un prétendant au titre. Et peu importe le football et peu importe ce qui se passe, et bah, on sait qu'ils ont ce truc de vouloir lutter jusqu'à la fin. Comme tu l'as dit, je suis à peu près d'accord. Je pense que Porto ferait pas un mauvais champion, parce qu'il n'y a pas de mauvais champion. À partir du moment où tu es champion, bah, c'est que tu es champion et que tu le mérites. Donc je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Quelque chose qui était très important à souligner et qui revient notamment de la part de nos mères dans les commentaires, c'est que Benfica mérite très largement son titre. Et je pense qu'on est là-dessus tous unanimes. On sait Benfica pour l'instant, et même si à la fin, comme tu l'as dit, ce serait plus une erreur professionnelle qu'autre chose, Benfica a été largement un rouleau compresseur cette saison et mérite largement son titre. On parle de Benfica, du coup, Phil, je vais te lancer là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du rival qui est derrière toi? Je pense qu'on pourrait même faire une petite parenthèse après sur Braga, mais je lancerai Mathieu. Tu penses quoi du rival, de cet après-classico, de comment tu vois les choses pour la suite pour Benfica et est-ce que Porto ferait un mauvais champion s'il passerait devant dans les derniers instants?
Non, bah, je vais continuer sur ce que disait Alex. J'avais préparé une phrase pour ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de mauvais champion. Il me l'a pris en préambule.
Un peu un
Non,
vol.
mais y a pas de secret. Si tu es champion, c'est que tu mérites. Si tu es encore là à 4 journées de la fin, c'est que tu n'as pas lâché sur des matchs pièges où c'est là qu'il faut faire les points, tu vois. Donc, pour moi, ça serait manquer de respect à l'institution qu'est le FC Porto de dire que ce serait un mauvais champion. Alors bien sûr, sur le terrain, c'est pas ce qui a été le plus sexy, mais nous, depuis un mois aussi, on n'est pas l'équipe qui joue le meilleur football au Portugal. Et donc non, s'ils sont champions, c'est juste on peut pas dire de gros mots, mais on n'aura pas fait ce qu'il fallait, tout simplement. Mais bon, si on ne gagne pas le titre, on aura au moins le titre du mérite à rajouter au palmarès. Et vu que ça fait 3 ans qu'on ne gagne rien, ça sera toujours ça de pris, quoi. Donc moi, je fais attention, c'est surtout à mes deux rivaux, parce que mine de rien, il y a le FC Porto et l'arbitrage. Non, je déconne. Non, il y a Braga derrière quand même. Et donc, si on perd ce week-end, ça risque de lancer un feuilleton de fin de saison comme je pense on a rarement vu. Je me rappelle plus de la dernière fois où il y avait un trio comme ça à la lutte pour le titre à 3 journées de la fin. Je sais pas si vous avez ça en tête. Comme ça,
2012,
aussi serré.
Ça en tête, non, j'ai pas le.
Il y avait moins de journées, je crois. Il y avait plus de journées. Parce que Braga, je crois,
Moins de journées, je vois. En vrai,
à
avec
la
moins de journées, je vois.
25e, on doit être premier. Et après, on affronte Benfica et Porto d'un coup. Et après, on joue la troisième place.
Souvent, tu as
Donc,
les
trois
deux
comme ça,
derniers.
c'est.
Tu as les
Ouais.
deux, tu vois. Mais
Ouais,
trois comme ça,
trois,
c'est.
4 journées de la fin, je n'ai pas souvenir. Mais il faut que je me
Ça
remette.
doit être peut-être dans le début des années 2000 et encore.
Peut-être.
Et encore. Donc, c'est pour ça. Tout dépend du match de ce week-end.
Et du coup, c'est très plaisant, comme tu l'as dit, Phil, en vrai de vrai, parce que cette bataille, elle est plutôt, entre guillemets, saine, à part pour les supporters, mais sinon, elle est plutôt saine, et on sent que ça se tiraille, et que les clubs attendent le faux pas de chacun, et on sent une belle ambiance dont ces clubs veulent chercher le titre, tout simplement, et tu m'as fait une super transition, je peux lancer Mathieu, on va élargir un peu le débat. Mathieu, je vais te poser une question, je suppose que je connais la réponse, mais je sais que tu crois encore au titre. Est-ce que tu y crois fort? Est-ce que tu attends ce match contre Benfica pour pouvoir relancer la chose? Tu attends le faux pas de Porto qui est quand même, comme on le sait, pas très bon sur le terrain et qui est limite encore sur ses deux derniers matchs. Enfin, depuis le Classico, c'est très limite même. Fais-moi un bref résumé de tout ça et de ta pensée.
Bon, après, moi, je voulais aussi un peu parler du FC Porto. Hein. Bon, pour le titre, tu vois, j'y croirais si on gagne Benfica, mais voilà, il faut gagner à Benfica. On les a déjà battus 2 fois, 3 fois, ça me semble beaucoup, à 4 journées de la fin. Donc, il y a pas mal de facteurs. Ce que je dirais, c'est que, un, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Benfica ne mérite pas son titre tant que Benfica n'a pas gagné le titre non plus. Hein. Je tiens à dire que, voilà, malheureusement, Benfica n'a pas gagné Porto au retour, Benfica n'a pas gagné le Sporting à l'aller, Benfica n'a pas gagné Braga à l'aller, donc il y a aussi le facteur des confrontations directes qui est encore à terminer, en tout cas à s'exprimer du côté de Roger Schmidt, du côté de Benfica, selon moi, parce que tu ne peux pas, parce que de toute façon, on a parlé, il reste que 3 victoires pour Benfica avant d'être champion, sauf que dans les 4 matchs qui restent, il y a donc la réception de Braga et il y a un déplacement au Sporting qui se ferait quand même un très malin plaisir de shipper le titre malgré la saison moyenne du Sporting en championnat à Benfica. Donc il y a ce facteur-là qui, contrairement au FC Porto, a été respecté. Porto a battu 2 fois Braga, a battu 2 fois le Sporting, a battu 1 fois Braga, a fait match nul à Braga, et a battu 1 fois Benfica. Et le match aller au Classico, enfin du Classico au Dragon en novembre dernier, on était quand même unanime pour dire que Porto méritait pas forcément de perdre ce match, avait quand même montré un très beau visage après l'expulsion très tôt dans le match de Stack. Donc il y a ces éléments-là, c'est fait pour moi un des éléments qui fait que Porto est encore dans la course aujourd'hui et que Porto sera sûrement à la fin de la saison champion moche. Oui, je le dis clairement, c'est horrible de voir là, c'est Porto, c'est nul, je suis désolé, il y a face à Boavista, c'est moyen, c'est même pas moyen, c'est atroce. Il y a en termes de jeu offensif, je suis désolé, c'est le pire FC Porto. J'ai vu Daniel dans les commentaires dire 2020, pour moi c'est pire que 2020. Depuis le retour de la Coupe du Monde, t'as plus Taremi, t'as plus Otavio, quand je dis que c'est qu'ils sont très très loin du niveau qu'ils ont montré la saison dernière et lors de la première partie de saison. Mais c'est pas malheureusement, c'est le football, c'est un sport très complexe et t'as d'autres facteurs, t'as d'autres ingrédients qui font que le FC Porto joue encore le titre. T'as l'expérience de son entraîneur, t'as l'expérience d'un groupe pour gagner des titres. C'est le club qui gagne tous les titres depuis un an maintenant, qui les a tous gagnés, qui est le champion en titre de tous les titres au Portugal depuis un an. Donc ça joue. Il y a une culture de la gagne quand même dans cette équipe, malgré leur jeu offensif et leur jeu tout court. Il y a une équipe qui défensivement défend toujours aussi bien. Faut le dire, d'un point de vue statistique ou d'un point de vue visuel, c'est une équipe qui réagit toujours aussi bien à la perte. C'est toujours une équipe qui, par les miracles de Conceição, a refait revivre Marcano pour créer une charnière centrale qui a 98 ans de moyenne d'âge et qui est toujours performante. Et c'est absolument fascinant. C'est peut-être le seul truc en termes de jeu qu'il faut retenir, c'est vraiment, encore une fois, la capacité de Conceição à faire performer son équipe défensivement. T'as un très bon gardien. Alors, il y aura débat à la fin de saison pour savoir qui est le meilleur gardien du Portugal, mais t'es un très 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 bon gardien qui fait que t'arrêtes aussi c'est pas le tien, mais bon, il y a un autre débat par rapport au tien où je serais pas d'accord, mais t'as des ingrédients qui font que Porto est toujours dans la course, ça c'est clair et c'est qui permet de créer cette compétitivité. Benfica n'est pas champion encore, parce que t'as un Porto et un Braga qui sont compétitifs cette saison et qui en plus était très bon dans les confrontations directes. Ça faut le noter et faut le prendre en compte, et pour Benfica ce sera le facteur clé d'ici la fin de la saison.
Très bien, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce sujet?
Alex, faut le micro.
Mon micro, pardon. Non, juste que une nouvelle fois, comme quoi le football reste imprévisible. Et que quand tu t'appelles Arsenal et Benfica, tant que tu n'as pas. je rigole. Sans tailler, parce que même moi au PSG, je ne suis pas encore serein, malgré l'avance qu'on a eue un certain temps. Mais ça prouve que je vais finir par en tirer des leçons, parce que ça fait 3 fois de suite que je pense que Benfica va finir largement champion, et finalement, non. Je pensais, personnellement, j'avais un peu plus de doutes parce que leur concurrence était comme Manchester City, mais au final, le football montre que tant que rien n'est joué, on ne peut pas s'enflammer ou même se dire que ça y est, c'est la fin, et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Et voilà, maintenant, il reste des matchs compliqués à jouer pour Benfica, mais j'espère quand même pour le football, en termes de jeu, en termes de tout ce qu'ils ont montré depuis le début. J'espère que pour eux seront champions, parce que ça récompensera un peu tout le travail qui a été fait par Roger Schmidt et par la direction du SLB durant l'été dernier. Et j'aime quand il y a du travail, j'aime quand ça travaille bien. Je pense que ça doit être récompensé, contrairement à ce qui se passe du côté du FC Porto depuis plusieurs années. Si ça gagne, ça voudra dire qu'ils ont eu raison pour certains et ils ne vont pas se remettre en question. Et je pense que ce club mérite beaucoup mieux en termes d'institution, en termes de projet sportif. Je pense que l'institution FC Porto mérite beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une meilleure fin pour Benfica maintenant que le meilleur gagne. Et si Porto ramène ce titre, faudra juste les féliciter et on le fera.
D'ailleurs, Philippe le félicite.
D'ailleurs, je voulais noter un commentaire qu'on nous a fait. C'est Daniel Fernandez qui nous dit, d'ailleurs, si Porto gagne le titre, je pense pas qu'ils vont du côté du Dove se remettre en cause. Et ce qui est plutôt vrai, c'est ce qu'on j'avais parlé au niveau de l'émission quand on avait fait un bilan sur Porto, où j'avais dit que justement, ce serait encore un titre qui serait un écran de fumée qui masquerait toute la mascarade et tout ce qui se passe autour de Porto et de la direction et des choix sportifs qui se font. Donc, je pense pas que ça aiderait énormément le FC Porto d'avoir ce titre-là.
Je suis d'accord.
Et même de ne pas l'avoir, en fait, tout simplement. Et même de pas l'avoir, tout simplement. Parce que je pense pas qu'il y a quelque chose qui risque de chambouler, Porto. Après, moi, en tant que supporter, forcément, j'aimerais avoir le titre parce qu'il nous faut toujours le titre et que Porto se doit d'être champion.
Bien
Mais
sûr.
peut-être que le fait de rater cette saison qui est pour l'instant totalement ratée s'il n'y a pas de championnat, il y a encore Rouge à Molle, mais c'est loin d'être gagné. Risque d'être une saison totalement foirée et peut-être qu'il y aura de l'investissement et peut-être qu'il y aura des choix intelligents, mais je reste très sceptique là-dessus. Quelque
T'as
chose à
Braga qui
dire?
va faire le doublé.
Sachant que t'es pas au Jamor encore.
mais tu sais que ça serait incroyable pour le scénario.
Ce serait une dinguerie.
Ouais, on va récupérer Mathieu dans un
Arrêtez
état.
là, arrêtez là, arrêtez. On n'arrivera pas. Limite, on gagnera un
Mathieu,
coup
tu
du
fais plus
Portugal.
d'émission pendant 3 mois.
Ça n'arrivera pas. Mais je voulais rajouter un truc. Non, parce que j'ai l'impression, je sais pas, vous les gars, ce que vous en pensez, j'ai l'impression que Béfica, enfin, entre guillemets, soi-disant, parce qu'ils sont pas champions avec. À 10 journées de la fin, tout d'un coup, ça devient un peu honteux. Donc, enfin, il n'y a rien d'honteux à gagner à 3 journées de la fin, le championnat, ou à 2 journées de la fin, ou même à la dernière journée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, ça dépend pas réellement de toi. Benfica n'a perdu des points que sur 4 matchs sur 30 depuis le début de la saison. C'est voilà, c'est aujourd'hui, tu en es là aussi parce que tu as des adversaires qui sont là aussi, qui font un championnat, et voilà, qui montrent une certaine compétitivité et qui sont à 6 et à 4 points de toi. Voilà, c'est le niveau du championnat aujourd'hui. Il est, enfin, voilà, il a été compétitif pour le titre. Tu as trois clubs qui jouent, entre guillemets, ce titre à 4 journées de la fin. Voilà, il n'y a rien de honteux.
Je
Maintenant,
suis
il y
pas
a.
d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve que si ça aurait été un grand FC Porto, je t'aurais dit oui, à la limite oui, mais c'est comme le PSG face à ses concurrents. Enfin, pour moi, quand tu as autant de points d'avance, quand tu maîtrises autant ton sujet, quand tu es autant aussi fort sur le championnat, tu peux pas te permettre de perdre le titre comme ça avec quand tu as 10 points et quand
Ils
tu
ont
as
pas perdu le
l'occasion
titre encore.
de mettre. Oui, non, mais si le perd, je te parle
Ah
si
oui,
le
mais
perd,
moi je te dis pas
pour
qu'ils
moi,
le
ce serait
perdent.
honteux. C'est là où je te dis, je suis pas
Ah
d'accord
oui,
avec
ça
toi. Quand
joue.
tu dis. Quand tu dis ouais, ça serait pas honteux si de se faire attraper, ou je ne sais pas, ou j'ai peut-être mal compris ce que tu voulais
Non,
dire.
non.
Non?
Non, ce que j'ai
Je
dit,
dirais
c'est
pas
que
que
c'est
ça
pas
peut.
honteux de gagner le titre à 3 journées de la fin. C'est
Ah
pas
non, ça
honteux
non,
de le
oui,
gagner
ça
à
oui,
2 journées de la fin.
mais
C'est même pas honteux de le gagner à la dernière journée. C'est parce que tu vois, dans un championnat, ça dépend aussi de tes concurrents. Le Naples pouvait être champion à 6 journées de la fin, avant-hier, parce que tu as des concurrents qui sont extrêmement moyens cette année, il faut le dire. Qui sont pas au niveau, qui sont pas à la hauteur.
mais
Sinon,
Porto n'est pas à la hauteur pour moi non plus, en termes de
Porto
jeu,
est à
oui,
la
en termes de
hauteur.
résultats, mais en termes de jeu, c'est
Ah oui,
faible,
mais
quoi.
enfin, il
Enfin,
n'y a pas que le
ce
jeu
qui
pour te
compte, c'est
remettre
le
des gros
résultat au
billets.
final. Bon.
C'est que Porto n'a pas 60, 12, 13 points par hasard aujourd'hui à bout de 30 journées. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des ingrédients qui montrent quand même que bah, le FC Porto a plein de choses qui leur permettent de rester compétitif. Après, est-ce que ce sera un champion moche? Ah oui, ce sera un champion très moche. Mais ça, c'est pas. Malheureusement, c'est pas ça qui te fait gagner un titre. Enfin, qui te fait gagner un titre de champion. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Benfica sera champion. Après, ça se trouve, ce ne sera pas le cas. Mais
J'espère.
est-ce que. D'être champion à 4 journées de la fin ou à 3 journées de la fin ou à 6 journées de la fin, ça change rien. Hein. Ça dépend juste de la qualité de tes concurrents au niveau d'un championnat. Enfin, selon moi. Donc, moi, je trouve qu'ils se mettent une pression particulière alors que. Parce que le Benfica n'a pas gagné le titre, enfin, n'est pas déjà champion avec 10 points d'avance. Enfin, 10 points d'avance, ça dépend aussi de tes adversaires si tes adversaires ne gagnent pas de points. Donc.
Ah non, mais ça, à la limite,
Il y a
ça,
une
on s'en
certaine
fout.
pression parce que aussi depuis t'as fait 3-4 ans tu ne gagnes rien côté Benfica.
Ouais. Ah oui, je suis
Donc
d'accord.
forcément.
Ça joue beaucoup,
Et
mais
puis il
après.
y a, y a, y a un investissement. Et puis il y a eu. Enfin, t'as vu. On t'a montré trop de belles choses cette année. Pour au final. Parce qu'au final, si t'es pas champion, ce sera pas une saison d'échec, comme on peut faire le parallèle avec Arsenal, t'as bien raison. Parce qu'il y a, y a
Ouais, c'est vrai.
énormément de travail derrière. Maintenant, quand toute la saison, tu es devant, tu produis un beau football et que tu as 10 points d'avance,
Ouais, mais
forcément,
Ah ouais, 10 points d'avance, que, tu les avais avant de compter pour Braga et le Sporting
oui,
aussi.
Oui, bah, bien sûr. Oui, vois, mais bon, faut les, c'est, faut, ça veut dire qu'il faut gagner les petits aussi, tu vois. Et parfois, il y a, y a d'autres saisons où c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et au final, regarde, après avoir perdu contre Porto, tu perds contre Chavez. Donc, mais le truc, ça, y a, moi, personnellement, je ne ressens pas forcément de la pression. Je m'en fous d'être champion à 4 journées de la fin, 3, 2, 1, je veux juste être champion. Mais c'est juste que j'ai envie de souffler. Et oui, là, ça... je joue deux concurrents. Enfin bon, Sporting n'est pas concurrent au titre cette année, mais ça reste un rival et ça reste un match compliqué. Et sachant comment on a géré les matchs contre les gros de notre championnat cette année, je ne suis pas forcément trop serein. Mais c'est juste parce que c'est une question de contexte, en fait.
Ouais, je suis d'accord, parce que points d'avance, tu les avais avant d'affronter le top 4. Donc, pour moi, c'était un peu biaisé et que maintenant, il faut faire le travail sur les confrontations directes que tu n'as pas forcément fait en première partie de saison et que tu n'as pas fait avec face au Porto et Classico. Donc, voilà le mérite énorme de Benfica. Le mérite, il est sur le jeu. Certes, Benfica joue le meilleur football. Mais ce que je veux dire, c'est que faut finir le travail, il faut gagner les titres, il faut surtout gagner les confrontations directes qui sont primordiales au Portugal parce que tu as 4 équipes, enfin, 3 équipes cette année qui perdent pas de points face aux petits. Donc, il faut finir le travail. Et. Si Benfica finit pas le travail, ce sera exclusivement leur faute parce que t'as mal géré les confrontations directes.
Oui, entre autres. Il y a ça et il y a peut-être la gestion
de l'effectif aussi. Sur les 4 derniers journées, ce sera que ça. Quoi.
Je pense que c'est une très bonne analyse pour terminer ceci. Messieurs, pas d'autres choses à rajouter ?
Non, tout est
bon. Je pense qu'on a...
Ok, moi, très bien. Bah, du coup, on a plutôt parlé de Benfica en terminant ce sujet-là. Et on va continuer à parler de Benfica. On va parler d'un petit gamin qui est un pur produit du club. Jean-Lève, 18 ans, qui est en train de faire une très très forte impression dès ses premiers pas en équipe A et dès ses premières titularisations. Sur les deux derniers matchs, il a été titulaire. Le premier match, il me semble qu'il fait 89 minutes. Non, c'est... pardon. Il fait tout le match contre Estoril et il fait 89 minutes contre Gil Vicente. Très forte impression. Petit gamin très talentueux. Je vais vite vous laisser parler de son profil et de ce qu'il apporte. Et la question, c'est est-ce que João Neves est déjà indispensable dans le 11 de Benfica en deux titularisations ? J'ai envie de lancer Phil, forcément, sur ce sujet-là.
Ça, je risque d'être un petit peu long, je vais essayer d'être le plus concis possible. De base, je suis un gars qui est plutôt mesuré, hein, mais c'est très, très, très compliqué de rester impassible face aux deux derniers prototypes qu'on a sortis en les personnes d'Antoine Silva et de Jean Neves, tant ils ont l'air matures dans leur jeu. On a l'impression que, enfin, ils font pas leur âge. Ils ont un supplément d'âme que parfois les plus vieux n'ont pas forcément. Et c'est toujours le problème, c'est que c'est toujours un petit peu délicat de parler des jeunes. Bon, là comme lui, il a pas 11 ans, je pense que ça devrait le faire. mais les jeunes, c'est toujours particulier parce que il y a une carrière, elle peut être longue. Et parfois se met d'embûches, mais elle peut être très très courte aussi. Et on a plein d'exemples dans les deux cas. Donc c'est toujours compliqué, surtout. Enfin, il y a eu quoi là ? Il y a eu 2, 3, 4 matchs de titularisation, 2, 3 matchs. ouais, sauf pour les lumières du stade. Donc c'est toujours un peu difficile. Maintenant, le garçon est. Enfin, et un talent qui est indéniable. Et moi, je me régale à le voir jouer. Enfin, à chaque fois qu'il joue, je me régalais déjà quand il était dans la baie. Le souci, c'est que souvent, c'est une histoire de contexte, de mental et surtout de personnalité. Et c'est là où on voit que le garçon a toutes les armes pour pouvoir performer. Faut juste qu'il arrive à tout mettre ensemble. Le contexte n'était pas le meilleur quand il a été titularisé parce qu'on était dans une période. C'est là où la période a été un peu compliquée. Mais faut saluer la manière dont Schmidt l'a réussi à l'introniser lui donnant petit à petit quelques minutes à chaque fois, il rentrait. Alors bien sûr, pour nous, c'est frustrant parce que un gamin, on a envie de le voir jouer, surtout quand tu as des matchs où c'est plié. Je pense notamment à Guimarães où le match, à la fin, il me semble qu'il était déjà plus ou moins plié. Tu te dis, ouais, il pourrait lui donner 20-30 minutes. Mais bon, c'est lui qui est avec les gamins tous les jours. C'est lui qui les voit s'entraîner. Donc, il faut le laisser bosser. Et visiblement, on voit que Schmidt a eu complètement raison dans la manière dont il a su l'intégrer. Moi, ce qui me frappe avec lui, c'est surtout on sent qu'il a cet ADN, ce truc qu'on disait que c'était perdu un petit peu dans le club. Mais on sent qu'il a les valeurs, on sent qu'il comprend ce que c'est que de revêtir ce maillot, chose qu'on ne voit pas énormément dernièrement. Moi, je le ressens avec Anthony Silva, je l'ai ressenti avec Ruben. Et pareil, avec André Horta, quand il était à Benfica, je sentais vraiment qu'il a ce truc qu'on a conceptualisé au Portugal de jugador adepte, un petit peu. Ces trucs qu'on n'a pas énormément. Tu vois, par exemple, il y avait André à Porto. C'est des mecs qui ont ils naissent avec ça, et ils ont cet ADN. Et lui, on le ressent surtout à un moment où l'équipe elle est fatiguée et t'as l'impression que les gens courent pas. Bah lui, il va tout donner et il va courir là où d'autres ne courent pas forcément. Et surtout, c'est ce qui en termes techniques ce qu'il va apporter parce que il nous a rapporté un peu de verticalité, ce qui nous manquait à ce moment-là. Cette capacité à trouver des joueurs démarqués entre les lignes, cette tendance à, par une passe lobée, réussir à débloquer le bloc adverse, c'est des trucs qu'on avait perdu depuis le départ d'Enzo Fernandez. Donc, il est venu nous apporter un peu d'air frais au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, moi, je le considère comme indispensable. Je pense que ça, c'est mon opinion. Je pense qu'avec Outil, il devrait faire ce duo du milieu parce que je pense que c'est ce qui est le plus équilibré. Je suis moins fan de Chiquinho et Jean-Neve, les deux ensemble. Maintenant, il faut juste qu'il y a certaines choses qu'il doit apprendre. C'est cette notion d'équilibre. Quand il y en a un qui va au pressing, l'autre, il doit rester. Chose qu'avait bien incorporer la doublette Enzo et Florentino. Donc ça va venir avec du taf et avec la prochaine pré-saison. Maintenant, il y a la jurisprudence Paulo Bernardo qu'il faut pas oublier non plus. Sa carrière n'est pas complètement morte, mais j'avais eu tendance moi à m'enflammer sur Paulo Bernardo que je trouvais très très bon dans la B, puis après sur les quelques minutes qu'il avait eu en A. Et au final, tu vois, changement de contexte et tu n'as plus d'espace et tu perds ta place. Donc, j'ai pas envie d'être dithyrambique, mais j'ai du mal à cacher ma satisfaction quant à ce petit génie. Puis un maillot dans le short comme ça, j'avais plus vu ça depuis un gars avec une dégaine de Pizzaiolo qui est venu prendre un titre à Monaco. Donc, j'ai envie d'y croire, ce petit garçon.
Eh ben, heureusement que tu devais être court. Hein.
Ah, mais j'ai fait le plus court
possible. Ça a été long.
J'ai préparé une rédaction, mon pote.
Écrire un article, c'est mieux.
Ah ouais.
T'as soulevé quelque chose de très intéressant, Philippe. C'est concernant par rapport à Paulo Bernardo. Je pense qu'on peut faire un petit comparatif. Je pense que João Neves est beaucoup plus compatible au niveau du jeu pour Roger que Paulo Bernardo, comme on a pu le voir même en pré-saison, il me semble, et dans le style de jeu qui les diffère les deux. J'ai envie de lancer Alex là-dessus. Pourquoi João Neves ne ferait pas ferait des meilleurs débuts que Paulo Bernardo, qu'il les fait déjà, mais pourquoi lui pourrait plus rentrer dans la tactique de Roger et pourquoi ça risque moins de rater, comme l'a dit Philippe, que Paulo Bernardo.
Alors déjà, pour répondre un peu à la question initiale, Philippe a quasiment tout dit, mais je pense qu'on ne se rend pas indispensable comme ça en deux matchs. Je pense qu'il faudra du temps pour que João Neves se rende indispensable au sein d'une équipe comme le SLB. Maintenant, il se montre déjà important et à 18 ans, c'est déjà très fort. Il a, Il a un peu remplacé, je dirais pas Enzo Fernandez, parce que Enzo Fernandez, c'est déjà un top joueur, c'est déjà un mec qui a évolué au plus haut niveau, mais dans le, comme a dit Philippe, dans tout ce qui est un peu plus touché du ballon, des passes un peu par-dessus la défense, on se rapproche un peu plus d'Enzo que de ce que faisait Chiquinho. Donc voilà, c'est vrai qu'il apporte un vent de fraîcheur, comme a dit Philippe. Mais maintenant, moi, pour répondre à ta question, je pense que João Neves correspond plus à Rodgers parce que, en termes, je pense que déjà c'est plus défensif, c'est-à-dire que dans le contre-pressing, je trouve João Neves bien plus intéressant que Paulo Bernardo. Paulo Bernardo, c'est vrai qu'il a un peu plus de temps à réagir à la perte du ballon. C'est pas un joueur qui est vraiment agressif sur le ballon. Il y en a vu João Neves, il a beau faire 1m73, 74, il gagne des duels de la tête, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est un mec qui va au charbon, qui va au contact. Donc rien que pour ça, pour moi, déjà, il est meilleur que Paulo Bernardo dans ce domaine-là, défensivement parlant. Maintenant, offensivement parlant, Paulo Bernardo, c'est un joueur qui est beaucoup plus box-to-box, qui est capable de jouer dans les deux surfaces, de parcourir un bon nombre de kilomètres, ce que ne fait pas vraiment João Neves. João Neves, c'est plus un joueur de pied, de ballon, qui aime avoir le ballon dans les pieds, alors que Paulo Bernardo, c'est plus un joueur de course, capable de faire des courses derrière le dos de la défense, etc. Donc, deux joueurs totalement différents qui pourront jouer ensemble. Mais je trouve que dans le 4-2-3-1 de Roger Smith, avoir un João Neves, c'est un peu plus sécurisant au niveau de l'équilibre, tandis que Paulo Bernardo, dans un milieu à deux, aurait tendance un peu plus à se disperser, je pense. C'est pour ça que je trouve Paulo Bernardo un peu meilleur dans un 4-3-3 en tant que meilleur relayeur. Mais sur le reste, je pense que voilà, il peut y avoir une belle concurrence l'année prochaine entre les deux, ou bien même ils peuvent jouer ensemble. Voilà, il y aura de quoi faire à Roger Smith de trouver la meilleure solution, parce que Paulo Bernardo était en train de faire un excellent prêt de prêt de Passos. Il est décisif, il marque des buts, il est bon. Il est en train de montrer pourquoi Renato Paiva en avait fait l'un des plus gros cracks du Seychelles. Donc voilà, hâte de voir tout ça. Mais en tout cas, pour João Neves, c'est très très séduisant. Et c'est pour ça qu'on aime aussi ce genre de championnat, le championnat portugais, parce que ça nous permet de voir des joueurs talentueux quasiment chaque semaine. Et on espère pour lui qu'il y aura de la continuité.
Donc toi, tu vois un match entre les deux, peut-être même la saison pro?
Ouais, un match entre les deux, ou non, pas forcément, parce que je trouve qu'ils peuvent être compatibles. À voir dans quel schéma sera utilisera Roger Smith. Maintenant, si c'est vrai que si on reste dans le cadre de 3-1, je vois pas comment Paulo Bernardo peut s'imposer. Est-ce que c'est peut-être pas mieux de le reprêter une saison entière? Je ne sais pas. Mais pour moi, les deux peuvent jouer ensemble. Je pense pas qu'ils seront en concurrence, parce que c'est pas du tout le même profil.
Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup soulevé le fait de Paulo Bernardo qui n'était pas là cette saison, parce que dans les émissions, et surtout Dani, je m'en rappelle, en disant qu'il n'était vraiment pas compatible Roger, du moins cette saison, et sur la tactique qu'il utilise. Mais oui, c'est très intéressant, et je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté du SLV l'année prochaine, et c'est normal, et c'est mérité, vu le travail de formation.
Il a déjà été utilisé à droite aussi. Hein.
Oui, aussi.
Et je ne pense pas que Jean-Marc réussisse à faire la même saison que cette année, donc il va falloir se réinventer tactiquement, je pense, l'année prochaine.
C'est pas faux. Mais oui, pour Jean-Marc, en vrai, c'est mérité, vu le travail de formation fourni le SLB depuis des années, de voir ce genre de joueur fleurir au sein des effectifs et pouvoir s'imposer, ou du moins montrer toutes leurs qualités footballistiques auprès des pros, comme ça, d'un coup, et aussi avec autant de maturité. Mathieu, je vais te laisser quand même un peu parler de Jean-Neve et de ce que tu penses du petit bonhomme.
J'en pense beaucoup bien du bonhomme. Après, ils ont très bien résumé la chose, donc j'irai sur un autre angle, qui est quand même l'évolution de Schmidt sur cette saison à Benfica, dans le sens où, il y a quelques années, c'était impensable, je pense, pour Schmidt de laisser Neres autant de temps sur le banc, d'avoir cette allée de percussion pas forcément comme un titulaire, d'ailleurs il n'est pas titulaire à Benfica, mais comme un joueur qui ferait la différence depuis le banc, et de créer une organisation selon deux milieux de terrain sur les côtés, que sont Orsnes et João Mario, et là au milieu de terrain, de préparer dans son milieu de terrain, dans ce cœur du jeu qui est si important pour lui, parce que il y a des projections des latéraux tout le temps, qu'il y a des nombreuses zones et de nombreux espaces à compenser, de préparer un joueur qui va avoir 19 ans cette année, je sais pas s'il les a déjà fait d'ailleurs, mais qui avait le bon profil, qui fait un temps quand même pour préparer un tel joueur à ce niveau-là, et de le mettre en plus dans ce moment critique de la saison de Benfica, de lui commencer à lui donner sa chance à ce moment-là, c'est dire voilà qu'on a eu des peut-être pas forcément des doutes sur l'aspect Schmidt par rapport à la formation de l'Efica, loin de là vis-à-vis d'Antonio Silva, mais la gestion du cas Paolo Bernardo, la gestion du cas Enrique Araújo en début de saison, puis au mercato d'hiver. Il manque un peu d'indication, je trouve, et là, c'est quand même un très très bon message ce qu'il a réalisé sur ces dernières semaines avec Jean Neves, lui donner beaucoup plus de temps de jeu et de montrer que les meilleurs à leur poste joueront. Sur ces quelques dernières semaines, sur ces quelques derniers matchs, le meilleur milieu de terrain pour accompagner Florentino, oui, c'est sûrement Jean Neves, sans critiquer, sans omettre tout ce qu'a fait Chiquinho depuis le départ de Enzo, qui n'était pas une tâche facile non plus de remplacer tout de même avec de bons indices de performance depuis le départ d'Enzo sur ces 2-3 derniers mois. Mais Jean Neves montre qu'il était apte, qu'il avait le bon profil et Roger Schmidt l'a très 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 bien géré, je pense, finalement. Donc on est déjà sur cet instant-là de la saison, un instant très important pour Benfica, et donc c'est un très bon message. Et c'est aussi déjà préparé sûrement la saison prochaine du côté de Benfica, du côté de ce milieu de terrain. Est-ce qu'il faudra recruter un autre milieu de terrain à peu près de ce profil? On verra. Ce sera un débat qu'on pourra avoir. Mais en tout cas, Jean Neves a le bon profil. Il jouera, je pense, un rôle important pour Benfica, que ce soit dans les quelques prochaines semaines ou dans les quelques prochaines années.
Petite parenthèse que fait Simon Labbé dans nos commentaires. Bah, du coup, on vous parlait un peu de mercato et de ce qui pouvait être possible ou comment il verrait la chose au milieu de terrain, qui parle forcément de la rumeur qui enfle ces derniers jours et qui était là l'été dernier du côté du SLB, c'est Kamada. Comment vous voyez ça? Est-ce que du coup, on repartirait sur un prêt de Paolo Bernardo ou aussi de Joan Neves pour le récupérer une saison après? Comment tu penses que ton club va gérer ça, Phil?
Moi, je pense que quand tu arrives à avoir une place tout simplement dans le 11 de départ, je doute que. Enfin, si tu reprêtes le gamin, je pense que tu le tues. Surtout si c'est pour un club moindre.
On a déjà eu le cas avec Jean-Philippe, avec Florentino, etc. Bon, ils ont réussi à se renouveler, mais c'est compliqué.
Mais ils sont passés par des moments très compliqués. Donc, si tu le tues pas, tu n'es pas loin de le voir agoniser. Et puis je pense pas que ce soit nécessaire. Pour ce qui est de Paolo Bernardo, ça va être un peu plus compliqué parce que je pense qu'il a peut-être eu un peu plus de mal par rapport à ses caractéristiques, comme vous l'avez dit, à digérer le CD-ROM de Schmidt. Soit il arrive à se réinventer, je sais pas, soit peut-être le prêter. Il y a pas mal de choses qui sont en suspens. Il y a aussi les cas de Tengsten et Sheldrup qu'il faudra voir aussi parce que ils ont quasiment, ils doivent avoir peut-être 50 minutes à tout casser en équipe A, donc c'est très très peu pour l'investissement consenti. Le fait qu'on se mette sur Kamada, si c'est le cas et s'il vient, alors c'est vraiment que du conditionnel, mais c'est plus dans l'optique d'avoir soit un remplaçant de Rafa, soit un remplaçant de Jomal. Et alors moi, je vois Kamada comme un attaquant de soutien, qui est le poste de Rafa, du coup. Maintenant, il y a plein de choses un peu en suspens. Il y a potentiellement le retour de Thiago Veille. Je pense que la saison d'Eric Pereira lui vaudra une pré-saison. Il y a le retour d'Eric Araújo. Donc, il y a un chantier qui est, mine de rien, qui est très volumineux. Et puis, il y a peut-être encore des retours de gars qui sont considérés comme indésirables. Je pense à des mecs comme Seferovic, même Weigl ou des trucs comme ça. Donc oui, je pense à Seferovic.
Tu penses à Seferovic.
Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses en suspens. Je pense pas que une potentielle arrivée de Kamada nuise à Genève. Je ne pense même pas que... Parce que Kamada, moi, je le vois plus comme un 10. Je pense qu'on va quand même aller chercher un 8 et peut-être... vendre Chiquig, parce que je pense qu'on a vu que quand le niveau augmentait, on voyait les quelques lacunes. Alors, ça parlait de Kokchou, je pense que c'est un joueur qui est beaucoup, beaucoup trop cher pour la réalité du championnat portugais. Et je pense que c'est un joueur qui est déjà prêt pour le très haut niveau. Donc, il ira certainement à Newcastle ou un club qui est prêt à payer très cher. Mais je pense qu'on va se mettre sur un 8 capable de défendre et d'attaquer, un 8 complet, mais qui est bon en manière de ballon, un peu à l'image de ce que faisait Enzo, même si un joueur comme Enzo, t'en as pas toutes les semaines, quoi. Je pense que même ça nuira pas à Genève, parce que j'ose espérer que Schmidt aura appris de ses quelques erreurs cette année et qu'il aura une meilleure rotation l'année prochaine.
Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là ? Ou sur le mercato de Benfica, ou sur la rotation comme,
Non. Ah, c'est que du spéculatif, en vrai.
Mais voilà, on pourra parler de mercato de Benfica en temps voulu. Là, c'est pas, je pense pas ça le débat.
Mais l'idée de Simon sur...
J'aime bien,
ouais. Très bien, très très bien.
C'est au moment où j'ai dit des joueurs comme Enzo qui m'a...
Exactement.
Ça, j'aime beaucoup, ça.
Très très bien. Après, j'ai vu, il est pas en partance pour Dortmund. Je sais pas si c'est ce que tu allais dire, Alex.
Non, normalement. Ouais.
Kamada, je pense. J'avais pas un Kamada, oui, partant vers Enzo, je sais pas.
Non. Enzo, il y a quelques semaines, ouais, il était en partance pour Dortmund. Kamada aurait refusé Dortmund car il préfère le projet sportif. Enfin, ça, c'est les journaux qui disent, mais il préfère le projet sportif de Benfica.
Un journal qui commence par un A et qui finit par un A par hasard.
Non, je crois que c'est CNN.
Ah oui.
Donc si c'est CNN Portugal, c'est que c'est vrai.
Un peu plus sérieux, calme-toi.
Mais ouais, Enzo le fait, mais c'est un joueur fantastique. Ouais, mais pareil, que je considère plus comme 10.
Après, on le prend n'importe où au Portugal. Hein.
Ah oui, c'est facile.
Tu Enzo, tu mets un 8 à Benfica, t'es content. Hein.
Ouais, carrément. Mm.
Non, Enzo le fait, hein, parce que maintenant on confondrait les Enzo, mais non, je pense que comme il serait qu'à un an de la fin de son contrat à Lorient, je pense que tu pourrais l'avoir.
Ouais,
mais
en plus, il y a un peu plus de soleil que intéressé. Dans le Morbihan. Donc.
ça joue, c'est vrai que ça compte. Ah, ouais. Ça peut compter. Qu'est-ce qui lui fait rire, Il a entendu Morbihan, tu sais.
Ouais,
il s'est dit, c'est des régions un peu pourraves que j'habite comme moi.
J'ai pensé une connerie, c'est pas grave. Bref, passons. Troisième sujet. Ah, ça va être dur, pardon. On est trois. Troisième sujet, là, ça va être la lutte pour la Conference League. Messieurs, on le voit qu'après ce podium et cette quatrième place qui va être confirmée par le Sporting, on a une très grosse lutte pour la conférence de la 5e à la 11e place. On a 10 points. Bon, je pense que moi, à partir de Chaves, Guimarães, en dessous, ça risque d'être compliqué pour aller chercher cette conférence. Mais c'est vrai qu'en 5e, on a Alouk avec 48 points. Ensuite, on a Guimarães. Ensuite, on a Famalicão avec 42 points. Et Chaves qui termine la marche pour moi des plus éligibles à aller chercher cette conférence avec 40 points. C'est une bataille, comme on peut le voir en haut du classement. C'est une saison quand même plutôt sympathique à suivre pour nous, fans du foot portugais de cette superbe Liga Bwin. On a du match dans le match un peu partout. J'ai envie de lancer Mathieu sur cette lutte pour la Conference League. Déjà, en premier temps, tes pronostics, ce que tu penses, quelle équipe est la plus méritante. Je te laisse commencer.
Pronostic Arouca, Famalicão, Chaves, Vizel, Casapi, Rio Ave et après le Vitória.
Non mais enfin, ouais. En tout cas sur la forme, ouais, c'est Arouca et Famalicão pour moi. Mathieu, je te laisse continuer, mais je débattrai plus tard. Pour moi, sur la forme, c'est les
deux. Non mais en vrai, Famalicão a quand même un effectif intéressant. Ils ont fait une très belle remontée depuis que Jean-Pedro Sousa est revenu. Ils font en sorte que Porto n'est pas encore au Jamor, parce qu'il y a encore une demi-finale retour à aller jouer, Louis, par rapport à tes propos de tout à l'heure. Mais c'est une des équipes qui est les plus compétitives. Dire que les trois promus sont dans cette lutte et ont quand même montré de belles choses cette année, que ce soit le Rio Ave, le Casapi et Chaves qui se tiennent en deux points, qui sont déjà officiellement maintenus pour la saison prochaine. Après, il n'y a pas grand monde qui n'est pas déjà maintenu. Si je te Gilles Vicente n'est pas encore maintenu mathématiquement, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est une belle bataille, et d'un côté ça traduit le fait que ça se qu'il y a trop de proximité entre ces équipes, enfin il y a c'est à la fois pas un problème mais à la fois un problème dans le sens où encore une fois tu vas avoir un turnover, je pense qu'on avait un peu parlé la semaine dernière sur le fait que le Vitor n'est pas sûr d'être dans le top 6 cette année et que tu peux te retrouver oui avec un Roca qui a pas joué cette phase là enfin n'a pas joué une compétition européenne ou un play-off de compétition européenne depuis 2016. Famalicão n'a jamais joué un play-off de conférence, enfin de compétition européenne, encore moins Chaves, encore moins Wiesel qui était en troisième division il y a encore 4 ans, encore moins le Casapi qui était dans la même situation. Donc c'est que des équipes qui ont quand même montré des choses intéressantes en termes de jeu. Il y a des bons joueurs à peu près dans toutes ces équipes. Hein. Il n'y a pas des joueurs extraordinaires, mais il y a des bons joueurs dans toutes ces équipes. Il y a des bons entraîneurs à peu près dans toutes ces équipes. Oui, c'est intéressant. Ça a contribué à avoir une Liga Bwin qui n'était pas moche cette saison, pour faire un bilan un peu plus global, au contraire même. L'année dernière, tu avais peut-être des projets de jeu un peu plus avec un peu plus d'identité. Le passeau de Sarah Pécheteau avait plus d'identité l'année dernière. Cette année, passeau de saison très compliqué, comme on le sait. Le Maritimo de Vasco Sabra avait une identité aussi intéressante. Cette année, c'est la démonstration que les coachs portugais surtout sont compétents et arrivent à tirer le maximum de leurs effectifs. Et ça, c'est intéressant. Un petit faible quand même pour le travail de Vitor Campelge à Chaves, qui est vraiment impressionnant et qui est un entraîneur qui a quand même eu le temps de mettre en place ses idées, comme Philippe Martinez du côté de Casapi. Ce sont que des entraîneurs qui sont montés, qui ont eu le temps de travailler et qui en sont là aujourd'hui, qui jouent l'Europe dès leur première saison en première division. Donc voilà, j'ai peu de qualificatifs non plus pour l'Arauca d'Armando Evangelista parce que là aussi c'est un club avec très très peu de moyens et qui fait une magnifique saison et qui a des vraies victoires de prestige aussi sur notamment face au Sporting. C'est intéressant, c'est sympa, mais ça traduit aussi le fait qu'il y a un trop gros turnover entre cette cinquième et cette sixième place, qu'il n'y a pas d'équipe qui arrive à montrer la continuité, de la force pour pouvoir un jour atteindre cette conférence ligue et passer ses playoffs. On verra cette année, ça peut arriver, mais les chances ne sont pas pour nous rassurer et donc ça c'est une bataille intéressante, mais c'est une bataille qui y a trop de clubs dans cette bataille pour me rassurer sur la qualification en conférence ligue la semaine prochaine.
Alex, j'ai vu qu'à un moment t'allais vite T'as vite un avis, je vois, et t'as envie de les dire, donc je te laisse prendre la parole.
Non, je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Moi, maintenant, si je devrais mouiller un petit peu sur la forme du moment et au bout du calendrier, même si le calendrier pour ces clubs-là n'a pas vraiment de sens, parce qu'ils vont affronter aussi des gros, etc. Mais sur la forme du moment, je vois bien Arouca continuer sur l'excellente saison qu'ils ont fait. Vraiment, c'est pas une équipe que je regarde beaucoup, donc je vais pas vraiment parler en détail, mais en termes de résultats, c'est juste exceptionnel ce qu'ils font. En termes de moyens, ça va être leur deuxième Coupe d'Europe sur les dernières années. Donc pour un tout petit club comme ça, avec un tout petit budget, c'est juste fou et c'est à mettre en avant. Et c'est exceptionnel tout simplement comme performance. C'est la surprise de l'année. Il en faut une à chaque saison au Portugal, donc là ça a été Arouca. Et enfin, je vois sur la forme du moment, je vois un Famalicão qui rentre très bien depuis l'arrivée de leur ex-entraîneur, Jean de Souza, je ne sais plus où il est parti, mais il est parti en Orient. Et voilà, et où il avait du coup échoué un peu au Boavista, mais du coup, il est revenu dans son club. Et quand ça remarche de nouveau. Et ils ont fait une remontée assez extraordinaire et je pense qu'ils sont partis pour finir sixième du classement. Maintenant, à voir comment ils vont réagir s'ils ne se qualifient pour la finale, mais aussi s'ils ne se qualifient pas pour la finale de la Coupe du Portugal. Donc il y a la confrontation contre Porto, le match retour d'incessamment sous peu. Et à voir comment ils peuvent gérer leur émotion, mais je pense qu'ils sont sur une très très bonne lancée. Leur effectif est vraiment bien fourni. Ils ont vraiment des excellents joueurs comme Colombato que j'aime beaucoup. Et voilà. Et pour moi, si je devais donner deux favoris, ce serait ces deux clubs-là. Maintenant, une petite mention spéciale au Rio Ave de Luis Freire. Moi, je ne les mets pas encore hors course. Il n'y a que 6 points d'écart. Donc il reste 4 matchs, c'est ça ?
Il reste 4 matchs. Et je crois qu'ils ont pas Porto. Je crois pas qu'ils affrontent Porto encore, Rio Ave.
Leur calendrier, je crois, n'est pas si compliqué que ça, de mémoire.
Non, Maritimo, Guimarães, Paz Ferreira. Donc deux confrontations, parce qu'il y a Famalicão à la fin. Donc Guimarães et Famalicão, et après deux en,
non, mais eux, en phase de descente. Ils sont tellement qu'ils vont aussi s'affronter entre eux. Quoi, donc...
mais c'est ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas trop juger le calendrier. Donc,
bah, dès la prochaine journée, d'ailleurs.
C'est ouais. ça. Mais ouais, moi, je ne l'aimais pas encore. Autant Boavista, bon, il n'y a qu'un point d'écart, mais 7 points, je trouve que c'est un peu plus... Enfin, c'est, forcément, c'est mathématique, c'est moins que 6. Mais, enfin, c'est plus que 6, mais moins dur à rattraper, on va dire. Mais voilà, moi, je ne l'aimais pas encore sur Riov. Pour moi, ça s'arrête à Riov. Après, au-dessous, ça me paraît compliqué. Mais Riov, 6 points, c'est largement faisable, à condition de faire un sans faute. Et quand je vois leur lancer, quand je vois le match qu'ils ont fait contre Alouk, qui était un candidat direct à la Conference League, bah, j'ai envie d'y croire et j'aimerais vraiment que Luis Freire fasse pour une première saison une Coupe d'Europe avec Riov. Et voilà, c'est mon petit coup de cœur de la saison. Donc j'aimerais qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça reflète le niveau du championnat portugais où c'est très homogène, où les petits clubs depuis plusieurs années répondent présents en termes de jeu, en termes de compétitivité au Portugal, et ça montre que bah, finalement il n'y a plus que avant il y avait vraiment les quatre gros, les trois gros, et le reste était vraiment très 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 mauvais en termes de qualité de jeu, ou plutôt pas vraiment agréable à suivre cette année. Et depuis plusieurs années, je trouve qu'il y a vraiment une compétitivité à mettre en avant chez les petits clubs qui travaillent très bien et qui voilà, qui faut mettre en avant, et c'est ce qu'on fait en tout cas.
C'est vrai qu'Alex, maintenant que tu le dis, c'est vrai que depuis qu'on a, nous en tout cas, on a commencé Golasso, on a toujours parlé des petits clubs et de certains clubs qui, selon les saisons, ont plus ou moins bien travaillé, et que comme quoi on essaye d'avoir, même avec des moyens un peu plus compliqués, d'avoir des projets sportifs intéressants, que ce soit sur la courte ou sur la longue durée, et on essaye de bien bosser au Portugal, et c'est vrai que c'est à noter, c'est très plaisant pour nous. Pour nous qui regardons ce championnat portugais, du coup, on a eu le petit coup de cœur de Mathieu, c'était plutôt Charge, toi c'était plutôt Riwav. Philippe, donne-nous ton coup de cœur. Est-ce que tu penses de cette lutte pour la conférence en général?
Non, bah du coup, il ouais, faudrait que j'aille à contre-courant. Ça va pas forcément faire à Mathieu, mais j'ai bien aimé quand même. La saison, notamment la première partie de saison de Guimarães et le travail de Morel. Je pense que ouais, il commence à être un peu à bout de souffle, donc peut-être que comme disait Alex, ça devrait se terminer sur du Aroca Famalicão, mais je suis d'accord aussi, Riov a pas enterré, parce que Riov doit jouer prochaine journée Marítimo, qui est en position très très délicate, et Guimarães doit jouer Vizerle, qui est un concurrent direct à cette Conference League. Donc si Guimarães perd et que Riov gagne, Riov revient à 3 points de Guimarães juste avant de les affronter. Donc ça serait limite un match à 6 points, et ça relancerait tout. Parce que là, je crois que c'est le 7e qui joue le 8e et le 6e qui joue le 9e. Donc sur les 4 dernières journées, il y a des confrontations directes. Comme disait Mathieu, en même temps, ils sont tellement qu'il y a la moitié du classement. J'ai pas forcément de préférence. Je sais pas si le mieux ça serait d'avoir deux équipes qu'on devrait récompenser par leur travail sur cette saison, ou si ça devrait être deux équipes capables de nous ramener des points l'année prochaine en Conference League, parce qu'au final c'est ce qui importe le plus. Le problème, c'est que je comme vous l'avez dit.
Est-ce que tu penses vraiment que Guimarães te donne ses certitudes l'année prochaine?
Non, non. Ah, non, non, mais je ne parlais pas d'eux. D'ailleurs, aucun ne peut t'apporter de certitude, parce que tu ne sais pas ce qu'ils peuvent faire.
Et c'est le même débat en France, un peu avec Toulouse et Lens, qui est ce débat en mode où est-ce qu'ils vont pouvoir prendre des points pour l'indice UEFA, et au final, bah, tu ne sais pas. En fait, je trouve que c'est au mérite. C'est, voilà, ils ont mérité leur place et ils doivent y aller. Maintenant, c'est vrai que oui, bah forcément, bah, pour prendre un peu l'exemple de Toulouse ou Lens, forcément, ils vont être chapeau 4, etc. Donc forcément, il y aura plus d'incertitudes et plus de risques du fait qu'ils ne vont pas prendre des points. Mais nous, au Portugal, que ce soit Guimarães, que ce soit Famalicão, que ce soit Rio, enfin, tu n'as pas de certitude, quoi. Enfin, genre, tu n'as aucune équipe qui peut te dire, ouais, d'accord, on va prendre des points. À part les 4 gros, le reste, c'est vraiment trop homogène. Et à l'époque, Guimarães, oui, il y avait un peu plus de moyens financiers. Donc pourquoi pas? Parce que tu te dis, s'ils font une Coupe d'Europe, ils vont pouvoir investir plus, etc. Mais même là, ils sont en crise financière. Donc je ne suis même pas sûr qu'ils pourront acheter ou prendre des bons joueurs pour l'année prochaine. Donc autant, voilà, Famalicão, c'est un club quand même qui recrute bien, mais qui a des idées, on va dire, en quelque sorte, et qui pourrait permettre de faire une conférence league peut-être plutôt pas mal, mais moi sur le reste, j'ai pas de certitude. Donc autant donner celui qui mérite, tout simplement.
Ouais, parce qu'au final, tu peux pas. Chaque année, ils se font piller, tu peux pas. Tu es obligé de te réinventer. Vas-y, Mathieu.
Non, parce que limite, celui qui potentiellement aurait plus de garanties, c'est Famalicão. Comme l'a dit Alex, c'est un club qui a quand même plus de moyens financiers, qui est dans une meilleure situation financière que Guimarães. Voilà, le truc, c'est que on le sait tous. L'année dernière, le Gil Vicente de Ricardo Soares, c'était peut-être l'une des meilleures équipes hors top 4 que j'ai vu depuis que je regarde le football portugais. Et pourtant, ils se sont fait piller et ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Conference League. Ils ont perdu Lino, Pedro et Pedrinho, Zé Carlos. L'année prochaine, enfin, mais si Arouca perd son gardien Arroa Barrena, enfin des Rafa Morica, des Morla ici là, des d'Anthony, enfin tous ces joueurs là, des Jean Basso, Roca, je sais pas comment Roca va se qualifier pour l'Europa League, enfin pour la Conference League. Pareil pour Guimarães, si ça perd, enfin Guimarães, je sais pas qui peut perdre. Bamba, mais est-ce que André Amaro, Famalicão, on parlera sûrement Ivan Raimé, donc c'est ça le problème, c'est que ils donnent encore moins sur leur saison, ils sont moins forts qu'un Gil Vicente l'année dernière, et on sait tous que s'ils vont logiquement se faire piller à la fin de l'année. Donc, c'est y a très peu de garanties. Ceux qui donnent un peu plus de garanties que les autres, pour moi, oui, c'est Famalicão. Le Vitor, je serais pas d'accord. Enfin, j'aime beaucoup Moreno et je trouve que c'est un très bon entraîneur et qu'il faudrait lui laisser du temps dans un club qui est globalement quand même instable sur ces dernières années. Ça reste quand même 29 buts en 30 matchs, Guimarães. C'est moins d'un but par match cette année. C'est quand même assez flippant, je trouve, et je ne serais pas confiant sur leur qualification en Europe encore cette année. Il y a, à mon avis, grave moyen que Guimarães perde encore une place européenne comme il y a deux saisons à la dernière journée après ce match à Saporto qui sera au Dragon, si je me trompe pas.
Donc, sachant que Famalicão peut aller en Europa encore.
Oui, sachant que Famalicão peut aller en Europa. Et pourrait sortir donc le Sporting de l'Europa League. Si le Sporting
c'est tiré par les cheveux, mais c'est un scénario qui est possible. Ouais.
Par contre, si je peux rajouter un tout petit truc, Louis, je suis quand même déçu de Boavista. Je crois que j'ai déjà dit en plus. Je suis quand même très déçu parce que c'est quand même pour moi un club qui a des meilleurs joueurs que Rio Ave, que le Casapi, que Vizel, que Chaves, et donc peut-être et même Caruca, qui a un bon entraîneur, parce que je pense toujours que c'est un bon entraîneur, mais n'être qu'à 37 points au bout de 30 journées et ne pas jouer finalement l'Europe, ou être trop loin de l'Europe à 4 journées de la fin, quand tu as tous ces clubs-là devant toi, faut être exigeant quand même avec ce club historique du football portugais, et je pense qu'il faut donc être exigeant et leur dire que encore une saison dans le ventre mou, ok, tu joues pas le maintien, mais tu joues pas non plus l'Europe avec 6 places européennes pour la dernière fois d'ici, je pense, quelques années. Donc c'est assez décevant de la part du club de Porto, je trouve.
Et c'est pas moi qui vais être déçu pour eux.
Étonnamment.
Forcément, voilà, petite balle gratuite. Non, on rigole. Messieurs, moi, en vrai, j'ai envie de me mouiller. Je serais plutôt d'accord avec toi, Mathieu. J'ai envie de dire que ça va être Famalicão qui va avoir cette place-là. Parce que déjà, pour moi, c'est celle qui mérite le mieux. C'est celle qui joue le mieux de ce que j'ai vu. Comme tu l'as dit, il y a des investisseurs. Il y a quelque chose de très intelligent qui se passe derrière le club. Il y a des investisseurs qui se sentent concernés par le club, qui viennent souvent voir, demander des nouvelles sur les joueurs, etc. C'est un club qui tourne bien, qui cherche à évoluer, même leur infrastructure, etc. en interne. Donc je pense qu'au vu de cette saison et de leurs objectifs dans un futur proche, ce serait pour moi mérité qu'ils aient cette Conference League et qu'ils puissent la ramener, et c'est, sachant que c'est aussi un stade qui est généralement rempli, qui a des bons supporters. Donc ouais, je mettrai une petite pièce sur Famalicão.
Il faudrait juste qu'ils changent leur caméra, quoi, du coup, parce que
d'Europe. Ouais, par contre, ouais.
Mais en plus, c'est leur ambition. Hein. C'est vrai que je pense que l'ambition de Famalicão, c'est de faire une Coupe d'Europe. Et ce serait mérité au vu de ce qu'ils font depuis 3 ans. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais reproduit leur première saison où ils avaient fait une première partie de saison exceptionnelle depuis quelques années. Enfin, depuis ces 2 dernières années, ça s'essouffle un peu. Mais voilà, c'est un club qui progresse petit à petit, qui ne fait pas de bruit. Mais voilà, c'est vrai que moi, je suis plus pour ce genre de club qui travaille petit à petit d'année en année, qui a un vrai projet, qui ne vire pas. Enfin, ils ont changé beaucoup d'entraîneurs, mais au cours de ces dernières années. Mais voilà, tu sens qu'ils sont là, ils sont installés au sein de la Liga voilà. Bwin, plutôt que sur des clubs qui arrivent, qui font un one shot et que derrière vont jouer le maintien. Enfin voilà, c'est. Je pense qu'ils sont préparés, je pense, pour cette étape de la Conference League. Maintenant, à voir s'ils perdent Ivan Raimé, s'ils perdent Colombato, s'ils perdent je ne sais qui. Enfin, ça peut venir vite compliqué. Mais j'ai confiance aux. Mais j'ai confiance aux dirigeants qui seront capables de les remplacer.
Georges Mendes.
Ouais, mais c'est bien sûr, mais c'est le club qui, depuis qu'ils sont montés en Portugal, a peut-être globalement les meilleurs joueurs. Enfin, recrute les meilleurs joueurs intrinsèquement. Tu vois. On a Salves, sur Ostrasic, aujourd'hui, tu as du Ivan Raimé. Parmi les termes de qualité. Bien sûr, tu as quand même regardez, mais voilà, donc il y a un dénominateur commun, on est d'accord. c'est un club qui subit certaines influences, mais qui ça a été son projet depuis le départ. De toute façon, le président, j'ai oublié le nom, je suis désolé, vous allez le retrouver à ma place. Est toujours parlé comme ça, hein, de cette côté de travailler avec certains agents, pas qu'avec Georges Mendes, surtout avec Georges Mendes, certes, mais avec d'autres agents du monde entier. Ça avait été notamment le cas avec Ryan Tigg à l'époque. Qui n'a pas confirmé qu'il joue encore U23 cette année. Mais voilà, c'est le club qui arrive à attraper les meilleurs joueurs, je trouve, et qui voilà, donnerait un peu d'espérance.
Miguel Rivero, Mathieu.
Voilà, pardon, Miguel Rivero, merci.
Ancien directeur sportif de
Rio Ave. S'il y a un club auquel on pourrait avoir, entre guillemets, un peu d'espoir, mais ce serait faire de la pub à Georges Mendes, et ça mériterait un peu, c'est vrai. Mais c'est un club qui a quand même des supporters, c'est un club qui quand même remplit un peu plus son stade que les autres, et qui semble un peu plus solide pour potentiellement attraper cette Conference League l'année prochaine.
Très bien, messieurs. Quelque chose d'autre à rajouter sur ces clubs-là, ou en général pour la lutte pour la conférence, ou dire que notre championnat est le plus beau d'Europe, ça je peux comprendre aussi.
Non, juste c'est intéressant à suivre parce qu'il n'y a pas que les quatre gros, et ça prouve que voilà, comme j'ai pu dire tout à l'heure, que vraiment, que si on s'intéresse vraiment profondément à la Ligue Bwin, il y a des choses à voir. Enfin, c'est vrai qu'on est souvent moqué, on est souvent critique envers le championnat, envers le pays, ce qui est normal parce que les infrastructures ne sont pas bonnes. Il y a plein de choses à corriger côté portugais, mais en termes d'entraîneur, en termes de voilà, c'est ce qu'on fait de mieux avec l'Allemagne. Pour moi, en termes de formation des coachs, etc., c'est pour moi l'Allemagne et le Portugal qui sont encore un peu au-dessus.
L'Allemagne, c'est le week-end dernier en termes d'arbitre.
Ouais, mais en quelque sorte, ouais, je pense que vraiment il y a des choses intéressantes à voir si vraiment vous aimez le foot. Sur les niveaux, il n'y a pas que les quatre gros, il y a les matchs entre les petits clubs sont très intéressants à suivre. Et ça fait de la bonne pub, et j'espère que ces clubs-là feront de la bonne pub en conférence, parce que c'est la vitrine, exactement, c'est la vitrine un peu du championnat portugais. Et si tu ne performes pas, bah, forcément les gens ne prennent pas vraiment au sérieux le championnat portugais, parce qu'ils pensent vraiment qu'il n'y a que les 4 gros, alors que pas du tout.
Et juste pour ajouter un dernier petit truc, pour m'en dire ce qu'a dit Alex, par exemple, beaucoup nous comparent avec les Pays-Bas, naturellement. Les Pays-Bas, sur les 5 dernières saisons, n'ont qualifié qu'un seul club hors leur top 4, qui est donc la Z, Feyenoord, l'Ajax et le PSV. C'est le Vitesse RM en 2019-2020, pardon. Nous, on a même fait ça aussi avec Guimarães. Non, même pas 20, tu vois. Donc, ce sera aussi difficile pour les Pays-Bas. Je pense qu'ils s'en sortiront peut-être mieux que nous, parce qu'ils sont sûrement plus intelligents que nous. Ça, c'est pas compliqué en termes de ligue. Mais ils ont aussi ce problème quand ils auront 6 équipes de devoir faire performer 2 équipes en Conference League qui ne sont pas dans ce top 4. Donc, ce sera un challenge aussi pour eux.
Ouais, mais ils risquent d'être beaucoup plus inventifs, comme tu dis, parce qu'ils anticipent tout simplement, nous on ne sait pas faire. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Alex. Et même par rapport à rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux promus, c'est pas anodin de les voir faire une bonne saison, les 3 promus, tout simplement parce que c'est des clubs qui ont bien bossé cet été, qui ont chacun des coachs avec des idées de jeu sympathiques. Donc, c'est logique au final, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire ici. Quand tu travailles bien en amont, généralement tu récoltes les fruits de ton travail à la fin de la saison. Donc voilà, j'espère que ça va inciter d'autres clubs de division inférieure à faire de même. Et on voit même dans les divisions inférieures, que ce soit dans la deuxième ou la troisième, des équipes avec des projets de jeu et des coachs intéressants. Ce sera peut-être la mention spéciale d'Alex d'ailleurs. Donc non, c'est intéressant. Il y a plein de bonnes choses super, super intéressantes au Portugal. Le problème, c'est qu'elles sont un peu trop. Après, les choses négatives prennent un peu trop le pas. Que ce soit souvent les classicos qui sont censés être nos vitrines, c'est souvent là où il y a le moins de football sur le terrain. Donc forcément, à l'extérieur, ça s'exporte mal. Et puis, il y a encore ce gros souci et ce fléau d'arbitrage et de clubisme qui font que, même si on peut rajouter la presse aussi, qui font que ça tire le championnat un peu vers le bas, malheureusement.
Ouais. Et en attendant Louis, je dirais juste...
Non, je sais pas. Ma caméra est coupée, alors je regardais juste l'écran. Du coup, messieurs, je pense que c'est une très bonne conclusion. On peut passer en mention spéciale, je pense. J'ai envie de commencer par Alex.
Non, mention spéciale à Yannick Philippe. non, plus sérieusement, je sais pas si c'est une mention spéciale ou plus un coup de gueule, c'est juste fatigant. Tous ces policiers de Twitter, enfin ce Twitter, ce réseau est devenu fatigant et je ne sais même pas pourquoi on continue à y être, à part pour avoir les informations à l'instant T et rapidement, mais qu'est-ce que c'est des ordures de d'émettre un avis ou de parler sur ce réseau. Autant il y a des choses qui touchent pas parce que ça reste que des insultes ou autres, autant ça c'est vrai que ça peut être vexant de se faire traiter de pédophile parce que t'as la malchance de suivre un joueur que tu aimes voir jouer au football tout simplement, et c'est vrai que ça peut être parfois vexant ou même touchant, donc ça va, je prends beaucoup de recul avec ça parce que ça reste que des insultes, mais attention aux mots que vous prononcez parce que ça peut vite personne et plus, enfin, s'il y a une personne qui est faible mentalement, elle peut vite être touchée par ce genre de propos. Donc c'est plus un coup de gueule sur ça. Mais mon spécial au tournoi de Joinville qui était très très réussi. Donc voilà, je savais pas quoi dire comme mon spécial, donc je vais rebondir là-dessus. Très beau tournoi où vraiment très très bien organisé, des vrais bons joueurs. Vraiment, quand tu vois, c'était des U13, mis à part lui qui avait c'était un U11, mais il est tellement au-dessus qu'on aurait dit un U13. Mais quand tu vois la qualité des jeunes joueurs désormais, c'est vraiment flippant. Enfin, moi, de ma génération, on n'était pas aussi fort, simplement. On n'allait pas aussi vite, on n'était pas aussi explosif, on n'était pas aussi puissant, on n'était pas aussi rapide, technique. Enfin, voilà, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, de 12 ans, sont limite meilleurs que ceux qui avaient 16 ans à notre époque. Donc c'est intéressant à suivre et ça démontre qu'il y a une vraie évolution dans le football. Et voilà, donc faites attention à vos propos. Et ici, on continuera à parler des jeunes joueurs. C'est vrai que 11 ans, c'est trop tôt. Je suis le premier à dire que c'est insensé d'en parler d'un joueur qui a 10, 11 ans. Maintenant, lui, c'est un joueur différent. C'est un joueur qui évolue sur un terrain 11. Parce que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas juger un joueur si c'est sur un terrain 8. Il n'y a aucun sens de juger un joueur sur un terrain 8. C'est trop, pour moi, ça n'a pas de sens. Je m'intéresse qu'au terrain 11. Mais quand c'est un joueur comme ça, aussi précoce, aussi fort, qui a tout simplement ébloui tous ceux qui étaient là au tournoi de Joinville, et ce n'était pas des mecs comme moi, c'était vraiment des recruteurs, des agents, des mecs, des professionnels, il a ébloui le tournoi, tout simplement, forcément obligé d'en parler. Maintenant, oui, ça reste tôt, on n'a jamais dit qu'il allait faire une belle carrière, que ce sera un top joueur, le meilleur joueur du monde, etc. Juste à l'instant T, c'est un super joueur. Maintenant, il ne faudra pas brûler les étapes. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a même des gamins de 15 ans qui jouent au Barça, forcément, aujourd'hui, tout va très vite dans le football. Et on est les joueurs sont de plus en plus précoces. Donc forcément, c'est normal d'en parler, mais il faut rester mesuré. Et rester mesuré aussi dans les propos des gens. Voilà, voilà.
Et puis, n'oublions pas que Lionel Messi est arrivé à l'âge de 25 ans au Barça. Donc forcément, c'est de ne pas promouvoir les jeunes. Philippe, à ton tour pour la mention spéciale.
Je ne sais pas si Mathieu va se faire ce plaisir de parler de ce week-end de Liga 3. Du coup, moi, je vais parler de ce qui me concerne. Et c'est assez rare pour le souligner, c'est la victoire du Benfica de ce week-end. Cette saison.
Il était même pas au courant de l'émission en forêt.
Non, mais parce que je l'ai vu. Si mon père, il m'en a parlé ce week-end. Parce que moi, je n'ai pas vu le match. Il me l'a dit. Mais c'est si rare cette année. Donc, ça fait du bien, surtout de s'éloigner de cette possible descente. Parce qu'on l'a déjà dit ici, Alex l'avait déjà dit, ça serait catastrophique pour l'évolution des jeunes. Parce que ça serait retourné en Liga 3. Donc, il faudra terminer cette saison en Ligue 2 de la je vais pas dire de la meilleure manière possible, mais de la moins pire, et se poser les bonnes questions l'année prochaine, du coup.
D'ailleurs, petite dédicace à ton papa qui est un fidèle auditeur de Golasso et qui
toujours ouais.
Toujours là, et on le remercie du fond du cœur parce que ça nous fait énormément plaisir.
Même s'il nous envoie quelques balles quand même.
Il a totalement raison sur le match de dimanche. Totalement raison. Moi, mon spécial, ouais, non, Philippe a vu juste. Mon mention spéciale, elle sera pour le club de Leria en Liga 3. Alors, malheureusement, c'était donc une montée au détriment de l'équipe de Braga, donc de mes jeunes. Mais n'empêche que dans un stade de 22 000 personnes, dans ce stade pas mythique, hein, mais quand même emblématique, hein, de la fin des années 2000, de l'Euro 2004, et de revoir à ce niveau-là, rempli comme ça, ça fait plaisir pour la montée donc de l'Union en deuxième division. Donc, la dernière fois qu'on a entendu parler de ce club dans les championnats professionnels, ça a donc remonté à il y a 11-12 ans, ce fameux match à 8 avec Oblak dans les cages. Oui, c'était la dernière saison de Leria dans les championnats professionnels. Depuis, c'est un club qui a quand même très très bien travaillé, un club qui s'est très très bien structuré. Je crois qu'on en parle quasiment chaque année en fin de saison en disant mince, ils ont encore loupé le coche. Soit c'était les playoffs, soit c'était la phase de montée à 6 journées. Donc là, ils sont qualifiés au bout de 5 journées. Ils sont en deuxième division. C'est un bel exploit de la part de Vasco Boudel-Dakost, parce que c'est un club qui commençait un peu à avoir cette culture un peu de la loose, de très bien travailler durant la phase régulière, mais de finalement à la fin de pas être au rendez-vous. Ce monsieur qui est un excellent entraîneur et qui choisit la voie donc de prendre ce club en troisième division et de le faire monter en deuxième division. Donc un bel accomplissement des dirigeants, de l'entraîneur, des joueurs, il y a des très bons joueurs, Gonzalo Gregorio, Leandro Antunes, Jair qui était en quatrième division l'année dernière.
Jair, quel joueur.
Ouais, très très bon joueur, Pavel Kiesek, mythique gardien de la Ligue. Gabewin a 40 piges bientôt.
Alfonso Valente qui l'a pris justement d'Estoril aussi, qui l'a fait venir à Estoril.
Oui, c'est Vasco Olivel aussi derrière, qui était à Estoril, U23 d'Estoril. Donc ouais, non, il a fait un excellent travail, bon recrutement, comme souvent, les Réacs recrutent toujours bien pour le championnat de troisième division. Mais c'est un club qui est très bien structuré, qui était structuré pour la D2 et qui ne ce serait pas très étonnant de revoir les Réacs bientôt maintenant en première division parce qu'ils sont structurés pour y arriver bientôt. Donc voilà, un très très bel accomplissement et maintenant il y a quand même un titre de Liga 3 à aller chercher puisqu'ils se sont qualifiés donc pour la finale qui aura lieu au Jamor en mois de juin.
Et oui, pour revenir un peu à Vasco, c'est un entraîneur qui entraîne, on va dire, depuis 4-5 ans, et au final la première saison qu'il fait un peu chez les U19 d'Estoril, il est qualifié pour la saison pour la phase des champions, et je crois que c'était du jamais vu du côté d'Estoril. Après, il y a le Covid entre-temps qui a tout gâché. Ensuite, il prend les U23 et la première saison il fait le doublé championnat U23 et coupe du 23. La saison suivante, pareil, il fait championnat et coupe U23, et ensuite il part à l'Area et il les fait monter lors de la première saison. Donc ça prouve que ça reste un coach ultra compétent. Et comme a dit Mathieu, maintenant il faudra chercher titre. Contre qui, on ne sait pas. Il y a une course entre Oshbelenens,
c'est le LASK.
C'est ça. LASK, exactement. Ouais. Donc voilà, il y aura une petite. Dans la poule B, rien n'est joué. Ça se jouera à la dernière journée, un peu comme toutes les descentes. Enfin, il y a tout qui se joue la dernière journée pour la Liga 3. Le Sporting aussi peut descendre en 4e division, etc. Donc Braga peut encore se qualifier pour les barrages. Donc voilà, on va suivre ça de très près. Et cette nouvelle formule de la Liga 3, de la 3e division portugaise, porte ses fruits, et c'est toujours très intéressant de suivre cette division.
Ouais, c'est vraiment l'un des derniers trucs, l'un des seuls trucs que la Ligue, enfin que la fédération a bien fait, de bien. Et il faut le dire, on l'avait dit dès son annonce, au début de Golasso. On savait qu'il fallait une réforme et ils l'ont faite. Et c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais ça porte ses fruits, c'est très très bien. Très 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 bien. Et une finale Belenin Sachleria serait quand même extraordinaire.
Et un barrage. Bessad, Belenins, moi je.
Ouais, mais non, il faut que.
Ah oui. Ah oui. En stream, qu'est-ce qu'on stream?
Non, il faut Belenins, sachez.
Oh là 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 là.
Un très bon entraîneur aussi, Bruno Dias. Mais voilà, je rebondis sur les propos d'Alex. un gars comme Vache Coutel Lacoche qui fait ça est un entraîneur spécial. Un mec qui gagne tout le temps avec du jeu, même dans les divisions inférieures portugaises, est quelqu'un de spécial et il le démontre. Et comme Luis Freire, on suivra sa carrière attentivement.
Très bien, messieurs. Bah, moi, j'ai une petite mention spéciale aussi pour le grand Clermont Foot qui va aussi faire la Conference League. Comme les tarifs, non, je rigole. On va plus aller vers du côté foot portugais et dédicace à Fabio Silva qui a fait son petit trou au PSV, qui a mis le pénalty de la victoire contre l'Ajax hier en finale de coupe, qui a une superbe entente avec Xavi Simons.
Et, pas que sur le terrain, je te le dis, moi. Ah, mais il se passe un truc bizarre entre eux.
Ouais,
bizarre.
J'ai pas envie de savoir, mais non, je pense qu'ils vont, ils vont en soirée ensemble et tout. Rattraper le truc. Non, mais en vrai, tu sens que le talent et le football, quand tu deviens sérieux et que tu es quand même travailleur, au bout d'un moment, ça paye. Et Fabio Silva, malgré les prêts, vous savez l'affection que je porte pour le joueur depuis très longtemps, je suis depuis très longtemps, je ne suis pas autant les jeunes que vous, mais j'avoue que je me suis beaucoup mis devant lui quand il était en jeune à Porto. Et tu rigoles, mais tu sais que la dernière saison qu'il fait à Benfica où il est champion, et si je me trompe pas, et ben je le suivais déjà et je me branchais juste pour le regarder parce que c'était l'histoire et tout. Vas-y.
Ouf, non, on n'est pas passé loin de.
Non, Alex, stop. Je vois arriver, pour revenir au sérieux, il y a Fabio Silva, c'est la fin de l'émission, il est tard, je sais que ça devient dur pour tout le monde. Mais voilà, et comme quoi ça paye et que le temps allait lui donner la raison et allait me donner raison aussi pour ce cas.
Attends, il a rien fait encore.
Attention, je reste prudent, ça irait dévisible.
Il n'est pas titulaire au PSV.
Hein ?
Il n'est même pas titulaire au PSV encore.
Je sais qu'il n'est pas titulaire, mais ça arrive.
Ça arrive, il reste 4 matchs quand même. On est au mois de mai.
Non, mais je veux dire que la machine est enfin, je pense, vraiment lancée pour lui et que ce truc-là, c'est un peu un signe. En plus, que même qu'il soit grave bien accueilli là-bas et que les supporters l'aiment beaucoup, ils ont déjà fait un chant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour lui là-bas. Et il est enfin aussi rentré, tu sais, dans cette période, l'âge où normalement tout se joue et ça se décante normalement pour une carrière. Et je pense que ça va le faire pour lui, donc voilà.
En tout plus, Xavi reste au PSV la saison prochaine, donc je pense qu'il va tout faire pour rester au PSV.
Ouais,
donc,
ouais.
Mais saison spéciale quand même.
Et puis il a un monsieur en vrai pour apprendre à côté de lui. Il a un neuf avec beaucoup d'expérience
et un bon neuf,
Luc de Jong, les gars, que ça soit en Eredivisie ou même après en Europe.
Je pensais que tu parlais du coach. On pensait tous au coach.
Oh le fou.
Non mais c'est une star après Van Nistelrooy, c'est au-dessus, c'est le soleil. On parle d'un joueur qui dans les années 2000 était un des meilleurs neuf au monde, hein, et qui mettait des buts exceptionnels, etc. Toi. En plus, c'est notre génération, les gars. Donc, Ruud van Nistelrooy, je pense qu'on l'a bien vu, on a bien kiffé ses matchs, notamment Manchester United. Mais ouais, non, j'avoue, je parlais de quelqu'un avec qui il jouait.
Là, ça va rentrer dans le bêtisier de Golas ou ça, hein. Ça
ouais, t'es ouf.
Surtout qu'on est tous les trois unanimes sur le coach.
Luc de Jong.
Et moi, je te sors Luc de Jong pour te couper, tu sais. Et qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu un peu, pour refaire encore une parenthèse sur Van Nistelrooy, qui est un entraîneur très particulier et qui est apparemment très difficile à vivre et qui ne ménage pas du tout ses joueurs. Ouais, et apparemment qui ne ménage pas le caractère c'était quelque chose, et apparemment qui ne ménage pas, même son fils, il n'est pas ménagé.
Mais ça, ils le sont tous. Hein. Van Persie, il est pareil.
Ouais, Van Persie aussi, j'ai entendu.
Levert, un peu moins, mais.
Ouais, mais j'avais entendu pour Van Persie aussi.
Cette génération-là, ouais, un peu.
C'est cette génération-là, de toute façon,
c'est eux qui ont raison, hein. Parce que c'est eux qui ont connu le football pro, donc il faut. C'est eux qui ont raison. Et quand c'est ça, on le fait aussi avec ses enfants. Donc.
Tout à fait. Messieurs, sur ce, je pense qu'on a fait une très belle émission. On peut finir là-dessus. Je vous remercie d'avoir été présent. D'avoir aussi bien débattu comme d'habitude. Merci, c'est gentil. D'avoir aussi bien débattu avec des superbes arguments et des si beaux visages face à moi. Et j'étais ravi de refaire cette émission avec vous. Voilà, ça, c'était cadeau.
J'ai une partie 2 sur Journée, quand vous voulez. Hein. J'ai pas tout dit là.
Écris un article, écris un article. Faut renommer le site un peu là.
Je vais écrire un article sur les lumières du stade.
Le boss qui glisse une petite pression en despi avant la compétition. Messieurs, merci beaucoup à vous. Merci à tous nos auditeurs. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao, bonne nuit à tous.
Merci.
Ciao, ciao.
Ciao.